La marche du monde. Valérie Nivelon.
Bienvenue dans votre émission enregistrée en public au festival Africa Jar, un festival à la rencontre des cultures africaines nées il y a tout juste 20 ans, ici dans la pittoresque vallée du Lot, grâce à une joyeuse bande de copains qui depuis ont été rejoints par de nombreux bénévoles plus accueillants les uns que les autres. J'en profite d'ailleurs pour les remercier, ainsi que les organisateurs Colin Dupré pour le cinéma, Jacques-André Guégan pour la musique et Agnès de Corsin pour la littérature. Africa Jar, c'est un festival précieux car il défend des valeurs humanistes, à commencer par la défense des cultures africaines, la lutte contre les discriminations ou encore la protection de l'environnement. Des valeurs partagées par mes invités panafricains, engagés pour la paix, engagés pour la diversité. J'ai nommé le philosophe Souleymane Bachir Diagne, professeur au département d'études francophones et de philosophie de Columbia aux États-Unis. S'il vous plaît, bonjour Souleymane.
Bonjour Valérie.
Alors vous venez de publier en livre de poche aux éditions Rive-Neuve, Léopold Sédar Senghor, l'art africain comme philosophie. Moi j'ai envie de vous demander, est-ce que vous pensez que ce festival Africa Jar s'inscrit dans l'héritage de Senghor?
Vous savez, il est beaucoup question de Senghor au festival Africa Jar. Je vous dirais d'ailleurs que pendant la table ronde qui a précédé notre rencontre, Roland Collin a beaucoup parlé de celui qui fut son maître et qui l'est resté à bien des égards, Léopold Sédar Senghor. Et tout ce que Senghor dit de l'art africain, d'une part, et ce qu'il dit également de la rencontre et du dialogue des cultures et des religions, eh bien, ces thèmes-là sont chez eux à Kajar, comme vous venez de l'indiquer.
Et à vos côtés, le chanteur et musicien Cherlot. Bonjour.
Bonjour Valérie.
Cherlot, c'est 40 ans de carrière. Une musique ouverte sur les rythmes balax, mais aussi afro-cubain ou jazz. Et un grand lecteur de Senghor, qui est l'un de vos auteurs préférés, Cherlot. Mais pourquoi?
Mais Senghor, à bas âge, moi je suis, je suis né vers les années 50, 55. Donc, dès à l'école primaire, il y avait juste une radio au Sénégal. C'était la radio-télévision sénégalaise, la RTS. Chaque fois, si Senghor parlait, c'était un littéraire. Et on était, même tu vois, les chefs de famille disaient, écoutez, c'est Senghor qui parle. Les gens l'écoutaient attentivement. Et aussi, c'était un poète. Il disait, le Arwatam est une danse tchagayenne essentiellement composée de ping et de pang. Tantôt ici et tantôt là-bas et Ndatsai.
Incroyable, Cherlot, grand imitateur de Senghor dans le texte. Félicitations. Transcender l'idée même de fusion entre le jazz et la musique traditionnelle. Le public d'Africa Jar en est le témoin. Le Cora Jazz Trio nous a subjugués lors de la soirée d'ouverture du festival avec Abdoulaye Diabaté au piano, Moussa Sissoko aux percussions et Chérif Soumano à la kora. Alors est-ce que pour vous, Souleymane Bachir Diagne, ce kora jazz trio est un bon exemple de l'art africain comme philosophie, puisque vous consacrez votre dernier livre à la pensée philosophique du poète président du Sénégal, mais aussi Senghor, initiateur du premier festival des arts nègres en 1966 à Dakar.
Absolument, je crois que c'est la meilleure illustration qui soit parce que, regardez, nous parlons jazz, une musique profondément américaine, elle-même née du blues, qui est probablement la musique la plus quintessentiellement africaine-américaine, comme on dit aujourd'hui. Et puis la kora qui est l'instrument emblème de l'Afrique de l'Ouest. S'il y avait un symbole de la musique en Afrique de l'Ouest, ce serait probablement la kora, puisque c'est l'instrument traditionnel par excellence de l'Afrique de l'Ouest. Et opérer cette fusion, créer cette conversation entre la kora d'une part, un piano, les percussions évidemment, mais en plus la musique que porte la kora avec le jazz, qui lui-même est une musique profondément métisse. Le jazz est né de la rencontre de ces musiques d'esclaves avec la musique européenne traditionnelle qui a transformé totalement, d'ailleurs, les instruments de cette musique traditionnelle. Par exemple, les sons de guitare ne sortent pas nets comme ils devaient naître, mais bluesés. De la même manière, les contrebasses ont été transformées en une espèce de pulsation qui reproduit les mouvements du cœur. Eh bien, c'est donc du métissage sur du métissage, et c'est véritablement ça, je crois, la philosophie que portent les arts africains. Des arts qui sont l'expression, à mon avis, de ce que la culture africaine a de mieux à offrir en termes d'humanisme, en termes de chant pour le métissage, la rencontre, la fusion. Et non seulement le trio jazz le représente parfaitement, mais mon ami Cherlo, assis ici également, l'exprime de la manière la plus merveilleuse qui soit dans sa musique.
De la musique qu'on va bien sûr découvrir tout à l'heure, puisque une de nos séquences sera consacrée au dernier album de Cherlo ici présent. Je tiens à préciser que c'est un grand honneur puisque c'est la seule date en France de Cherlo pour cette année 2019. Donc merci Cherlo d'être avec nous sur RFI.
Je vous en prie, merci.
Alors ce qui est très intéressant, Souleymane Bachir Diagne, lorsque vous évoquez ce mot singorien de métissage, c'est qu'au fond c'est l'aboutissement d'un trajet philosophique et humaniste de Léopold Sédar Senghor, qui au départ était un étudiant qui faisait la révolution au bord de la Seine avec ses copains Gontran Damas et Diop, Alioune Diop, et qui au départ, entre les deux guerres, ont forgé un premier terme, celui de négritude. Dans ces années 40, ce terme de négritude, contre quoi il se forge, contre quoi il réagit, ce mot?
Alors vous avez raison de dire contre et de dire réaction, parce qu'effectivement c'est un mot qui a été forgé juste avant-guerre, en réaction contre le racisme, en réaction contre la négation la plus radicale qui soit de l'humain, puisqu'il s'agissait de nier l'humanité même d'une certaine partie du monde humain, en l'espèce les Noirs. Donc comme ils le disent eux-mêmes, les pères de la négritude, comme on les appelle, Léon Gontran Damas, Aimé Césaire et Senghor, il s'est agi pour eux de ramasser dans le ruisseau un mot qui leur avait été souvent jeté à la figure comme une insulte, le mot de nègre, et de s'en emparer et de le retourner en quelque sorte contre la négation, d'en faire une affirmation. Alors ils ont été tentés, disent-ils, dit Senghor, au tout début, d'en faire juste cela, précisément une réaction qui pouvait même être considérée comme un antiracisme raciste, comme une expression qu'a employée Sartre à ce propos. Mais très très vite, la charge d'humanisme qu'il y avait dans le mot de négritude s'est révélée. Et donc ils sont, et Senghor est autant, sinon plus, un penseur de la rencontre et du métissage qu'un penseur de la négritude. Si on regarde dans le détail sa pensée, on se rend compte que très vite dans leur parcours, les auteurs de la négritude ont totalement déracialisé ce mot. Quand Senghor dit que Rimbaud peut être considéré comme nègre, que Baudelaire peut être considéré comme nègre, que Picasso peut être considéré comme nègre, que même Paul Claudel, le plus français probablement de tout ce que je viens de citer, peut être considéré comme nègre, on voit bien que le mot nègre ne signifie plus simplement, ne fait plus simplement référence à une race, mais à une attitude devant la vie qui est une attitude de refus de la négation de l'humain, de l'humanité de l'homme, et deuxièmement, qui est également proposition de rencontre et proposition de métissage.
Et cet humanisme auquel vous tenez beaucoup, cher Lowe, qui fait partie aujourd'hui de votre propre spiritualité, vous l'avez également hérité de votre père. Vous êtes né et grandi à Bobo-Dioulasso, mais vous avez été élevé aussi dans une grande famille au Sénégal, et la porte de cette maison était tout le temps ouverte.
Et même Senghor, dont tu parlais, chaque fois qu'il venait à Bobo-Dioulasso, et ses plats étaient cuisinés à domicile, on l'amenait à l'hôtel. Il voyait chaque fois le papa. Donc on avait une familiarité à bas âge. Parce que le vieux, il accueillait, il avait une très grande maison avec beaucoup de chambres. Il y avait beaucoup de nationalités qui passaient là s'ils n'avaient pas de quoi aller à l'hôtel. Tu étais hébergé, on ne te demande pas combien de jours tu vas rester.
Ce bain panafricain, multilingue, voilà. Ça c'est depuis votre enfance, cher Lowe, avec un papa musulman, mais vous, votre révélation, elle va être dans le mouridisme. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est cette image que vous portez autour de votre cou?
Ça, c'est mon guide spirituel, Mam Massamba Ndiaye Ndiare Wahi. Donc, c'est le Ndiare Ndiare du Bour Djolof. Mais il est quand même aussi l'oncle de Mam Cheikh Ibra Fall, le fondateur du mouridisme Baboul Mouridine. Et aussi le premier Baïfar, le premier adepte de Cheikh Ahmed Bamba. Donc nous, nous sommes dans cette lignée Baïfar. Et tous ceux du Baïfar, Mourid, tous c'est dans le même domicile, Islam. Islam, c'est la ilaha illallah, Sayyidina Muhammad Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc c'est juste des maillons qui se rassemblent. Donc la philosophie Baïfar de Cheikh Ibra Fall, c'est travail comme si tu devais jamais mourir. Prie comme si tu devais mourir demain.
Et le Baïfal, c'est donc une branche de la confrérie Mouride, fondée, voilà, vous l'avez rappelé, par Cheikh Amadou Bamba. La branche Baïfal, c'est Cheikh Ibrahima Fall. Et il est d'ailleurs le premier à porter des dreadlocks et à porter des vêtements en patchwork
les clôtres
de couleur. Et ça, c'est aussi votre ligne vestimentaire, cher Lowe. Pour vous, c'est important de porter ces vêtements, de laisser pousser vos cheveux.
C'est comme si on dit, par exemple, que le singe n'est pas vilain, il ressemble à son père.
Alors, prof, Souleymane Bachir Diagne, il y a souvent une confusion par rapport aux dreadlocks, justement, entre le rastafarisme, cette branche du mouridisme, qui est la branche Baïfal. J'aimerais vos lumières, vous qui êtes un spécialiste de la philosophie islamique.
Oui, alors justement, vous avez raison de rappeler que ce qu'on appelle les dreadlocks, ou même parfois on dit les rastas, ça n'est pas particulier au mouvement Rastafari. Avant le mouvement Rastafari, évidemment,
ça existait déjà.
C'est une tradition. D'ailleurs, vous trouviez cette tradition de manière générale dans les terroirs traditionnels, les tchédos, comme on les appelait au Sénégal, avant même la pénétration de l'islam. Chez les tchédos. Il y avait une tradition qui consistait soit à se tresser, soit à laisser créer des dreadlocks pas aussi magnifiques que ce que Cheikh Lowe a popularisé lui-même par sa musique aussi. Mais c'était une tradition et à un moment donné, on se rasait totalement pour marquer son entrée en islam quand on arrivait de régime tchédo. Et les Baïfal, par humilité, ont gardé cette tradition de porter les cheveux comme Cheikh les porte et également d'avoir des vêtements en quelque sorte rapiécés, qui étaient des pièces de différents vêtements cousu ensemble. Et maintenant, c'est devenu, évidemment, ça n'est plus le cas. On ne coud plus ensemble, les vêtements ne sont plus faits de briques et de blocs, comme on dit, mais c'est devenu une mode vestimentaire. Mais encore une fois, ceci est profondément enraciné dans cet aspect du soufisme qui insiste beaucoup sur l'humilité que l'on doit avoir. L'humilité de la personne se manifeste dans le vêtement que l'on porte. D'ailleurs, on ne sait pas très bien les origines de ce mot soufi, mais une des origines proposées, c'est que souf, qui signifie laine, indiquait leur préférence pour des vêtements de laine, c'est-à-dire des vêtements qui seraient cousus, si vous voulez, à partir du matériau le plus pur qui soit, le plus proche de la nature qui soit. Et c'est donc cette même philosophie qui est traduite dans les tenues, qu'arbore...
Et même Cheikh Ibn Fall aussi, il est soufi.
Oui, absolument.
Et Cherlo, vous êtes un des rares artistes, Baïfal. Est-ce que, pour vous... Être musicien, être chanteur, comme d'une certaine façon Marley a pu le faire avec le rastafarisme, est-ce que pour vous, c'est aussi votre travail de populariser cette philosophie Baïfal, cette religion Baïfal ?
Et c'est aussi une de mes missions. C'est primordial, je veux dire. Donc aujourd'hui, il y a pas mal de jeunes que j'ai connus au Sénégal, à Guédiawaye, un peu partout. Grâce à cette musique, avec ce message aussi, il y a beaucoup qui sont allés vers Mama Samba ou d'autres guides spirituels.
Mabam, mon fils du lité, que ça peut souhaiter. Mabam, mon fils du lité, que ça peut souhaiter. Yalla la defon ganay batax nam sutanga fatal bamba juli kiet ke sampe suwe yo nom di mo jur jam ji ñepp dal ba fara beew bamba ala ba am da may ñukoy ndam moy ma bamba mo fi juli ke ke sampe suwe ni wax se xalat bamba ci ngi suñu xalat bu len ko sa kalmoron moromonte wu
Bamba, le premier titre de l'album Balbalou de Cherlo. Dans la marche du monde et dans cette émission réalisée par Julien Boileau et enregistrée en plein air et en public au Festival Africa Jar 21e édition. C'est un album riche de 40 ans de parcours musical, un apprentissage commencé à Bobo Dioulasso dans le Volta Jazz pour lequel vous avez appris à déchiffrer tous les tubes des années 70, du Bembeya sur les disques vinyles de votre grand frère. Ouais. C'était un son très, très nouveau à l'époque,
ouais.
Cherlo.
Ouais. J'ai eu la chance parce que avoir un tourne-disque à cette époque, c'était un bijou. J'ai eu la chance parce que mon grand frère détenait un disque de 33 tours et 45 tours à domicile. On avait les Bembeya, les Rochereau, toutes les musiques de l'Afrique de l'Ouest.
Alors comment vous faisiez? Vous écoutiez les et morceaux?
J'écoutais. Des fois, je chantais des morceaux lingala du Congo.
Ouais. Ouais.
Du début à la fin, je sais que c'est juste point, virgule, trois points à la ligne, tout ça là, c'est clair. Mais je ne pourrais pas te dire qu'est-ce que ça signifie. Tellement que je me suis appliqué.
On a compris que vous aviez des grands talents d'imitateur. Hein. On l'a écouté au début de l'émission avec Singor.
C'était ça, toi.
Ouais.
Et donc aussi, si c'est un 45 tours, par exemple, je vais écrire, par exemple, le texte, comme je l'entends. Je le mets à l'aiguille de 33 tours. Donc, le disque traîne. Ça fait... J'écris.
Et c'était
une méthode. Et après, je le mets dans la vitesse normale.
Et avec ce dernier album, Balbalou, c'est vraiment tout ce trajet, non seulement musical, qui s'exprime, mais aussi spirituel, en lien avec les diasporas. Mais aussi avec les grandes questions du continent, Cherlo. Pourquoi ce titre d'abord, Wolof, Balbalou, et puis qu'est-ce que ça veut dire ?
Balbalou, c'est quelqu'un qui est presque prétentieux, tu vois. Il faut revenir sur terre, tu vois, être humble dans cette vie. Ça, c'est pas la peine de se montrer que je suis. Si tu entends quelqu'un qui dit, oui, je suis, il n'est pas.
Balbalou, orul, balbalou, orul, balbalou, orul. Yalla dafa sak kher kher di balbalo Yalla sak weñ mu toj kher wa Yalla sak weñ mu balbalo di balbalo Yalla sak sawara mu seyal weñ Yalla sak weñ Muy balbalo, idi balbalo. Yalla sak sawara, mu seyal ko. Yalla sak sawara, muy balbalo. Yalla sak ndox, mu fey ko. Ndox di balbalo. Di taw di balbalo Yalla sak ngalaw mu dal di sewet ngalaw di balbalo Yalla sak waxambane di balbalo Yalla sak jigen Kumba man kumandang Jigen di balbalo Yalla sak alkol lir di balbalo Balbalo Yalla sakal koina law
Balbalou dans la voix de Cherlo sur RFI dans la marche du monde enregistrée ici à Cajarc, une chanson où c'est le Wolof qui s'exprime. Cherlo maîtrise beaucoup d'autres langues, il est un véritable francophone, Souleymane Bachir Diagne. Qu'est-ce que vous inspire justement cet usage des langues africaines, mais aussi ces allers-retours avec le français, puisque dans une même chanson, Cherlo va être un panafricain, mais aussi un citoyen du monde.
Absolument, et c'est ce qui est remarquable dans ce qu'il fait. Dans mon propre travail, j'utilise souvent l'expression « penser de langue ». À langue. J'ai l'idée, en quelque sorte, que il faut, nous parlions, vous et moi, tout à l'heure, de métissage. Le meilleur métissage qui soit, c'est d'être multilingue. Parce que passer d'une langue à l'autre, penser dans une langue et penser dans une autre langue, c'est le meilleur moyen de se décentrer. C'est le meilleur moyen d'avoir le sens du pluriel, le sens de la rencontre, d'autres manières de dire, d'autres manières de voir le monde, d'autres manières de les approcher et d'avoir du respect pour toutes ces manières-là. Et la façon dont justement Cherlo navigue dans sa musique entre plusieurs langues est absolument remarquable. Et ce qu'il en dit, c'est une sorte de sagesse universelle qui est portée précisément par la rencontre qu'il effectue entre ces langues. Le morceau, magnifique morceau Balbalou que nous venons d'écouter, il y dit en Wolof qu'il ne faut jamais être prétentieux, que la pierre a été prétentieuse lorsqu'elle a été créée par Dieu, et Dieu a créé le fer pour écraser la pierre, que le fer à son tour est devenu prétentieux, et Dieu a créé le feu pour faire fondre le fer. Eh bien, toutes ces leçons de sagesse universelle, dans le fond, sont illustrées aussi par le fait que Cherlo les dit dans plusieurs langues et qu'il navigue entre ces langues-là.
Charlot s'exprime en plusieurs langues et Charlot incarne justement cette diversité, ce panafricanisme, en accueillant sur son album notamment la grande diva malienne Oumou Sangaré.
Oh hey, Africa, 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 unite, unite. Ndamu Africa, doyol na nyukudeta. Ndamu Africa, doyol na nyukudeta. Ifena na fudul Africa. Ndamu Africa, doyol na nyukudeta. Ndamu Africa, doyol na nyukudeta. Ifena na fudul Africa. Kudeta de jur banye, kudeta de sukat babu sabab, de setlo nanyu fumu khasa am. Yag yag dana fa amat, kudeta batijo, neyek pai doto boloi. Kudeta batijo, chamonyen di jor doto boloi. Kudeta batiju gusak nga fong na dalay wutu wutu wa wa ya wo Africa o Africa o Africa o unite unite stop wa
Africa unite, ça nous rappelle quelque chose, Charlot, sur cet album. Balbal, vous invitez Oumou Sangaré, une grande, grande voix féminine de la chanson au Mali, pour un texte extrêmement engagé, peut-être le plus engagé de l'album, où vous dénoncez l'usage de la force, qui vous semble totalement contradictoire avec l'apprentissage de la démocratie. Pourquoi vous avez tenu à écrire ce texte aujourd'hui ?
Mais il faut. Aujourd'hui, démocratie, on l'a incarnée au Sénégal. Si on parle au côté Afrique, ça date de très longtemps. Il ne faudrait pas que cette démocratie aussi recule. On doit le renforcer pour le futur.
Charlot, vous pensez avec Alpha et avec Tchikenja que les chanteurs, vous avez aussi un rôle éducatif envers la jeunesse africaine, mais celle notamment qui n'a pas accès aux livres, qui est encore analphabète.
Mais c'est comme si aussi c'était des écrivains. Si tu me parles de Alpha Blondy et Tchikenja Fakoly, on est dans la même rangée. C'est comme si on écrivait un livre, mais là, c'est parler, c'est auditoire direct.
Auditoire direct, alors on ouvre ses oreilles.
Fenana Fudul Africa. Kudeta de jur banyel, kudeta de sukot bopo sabop, de seklo nanyo fumu kasa am. Yag yag dana fa amat, kudeta ba de jur,
ne ekbai do tongolo bubuje ta batiju jamuni ni jor do tongolo bubuje ta batiju ustakhna fogne dalai wutu wutu wa.
Vous écoutez RFI, la marche du monde, Valérie Niglon.
Sherlo et Souleymane Bachir Diagne sont nos invités dans cette émission enregistrée au festival Africa Jar, tous les deux très engagés pour la paix et la diversité dans les Afriques, tous les deux très bavards, tout comme Kassim Sanogo, cinéaste malien, trop tôt disparu, auquel nous rendrons hommage sur RFI en évoquant son film documentaire Gao, la résistance d'un peuple, présenté ici à Cajar. Et je remercie beaucoup la journaliste et membre du jury Dia Mambou, qui vient de nous rejoindre pour en discuter. Je rappelle que ce film de Kassim Sanogo, réalisateur de Gao, la résistance d'un peuple, est un documentaire unique sur la ville de Gao, au Mali, occupée par les groupes armés indépendantistes du MNLA, mais également intégristes du Mujao à partir de 2012. Et donc, grand merci à vous qui êtes membre de ce jury cinéma. Ici, j'aimerais avoir vos impressions sur ce film que vous avez découvert avec nous ici à Cajar.
Oui, absolument. Bonjour. Donc, c'est un bel hommage quand même qu'on lui fait à Kassim Sanogo, que son âme repose en paix, pour un peu rejoindre ce que disait Cheikh Lo, finalement, aussi comme les chanteurs, les cinéastes sont finalement aussi, ont aussi ce rôle éducatif. Et pour l'occurrence, il nous laisse ici une œuvre absolument importante qui suit finalement ces mouvements dans cette ville du nord du Mali qui a été envahie en 2012. On peut vraiment parler d'envahissement parce qu'elle a été occupée. Et lui, 5 ans après, fait la démarche de prendre sa caméra et aller justement à l'encontre de ces différents mouvements qui se sont créés pour constituer finalement la résistance. Et c'est ce qu'il fait à travers ce film. Et on le voit, il se met à l'écran, je pense, de manière exprès pour nous accompagner, pour nous inviter à aller comme lui rencontrer ces jeunes, ces hommes, ces femmes, ses enfants, en plus à l'aide d'images d'amateurs qui sont tournées à l'époque. Je pense que c'est important aussi parce que c'est ce qu'on voit au-delà des médias, finalement. Ça sort de l'idée que la solution à un conflit peut venir de l'extérieur, parce que ce qu'on nous montre finalement, c'est les conflits, mais on montre rarement peu les mouvements qui se créent à l'intérieur de résistance. Et finalement, c'est un beau message qui nous fait dans ce film.
Alors, c'est effectivement extrêmement intéressant pour celles et ceux qui auraient déjà vu ce film ou qui aimeraient savoir de quoi il s'agit. Nous avons un film qui se passe à Gao, où le réalisateur va à la rencontre des différents leaders, en fait, des mouvements de résistance, que ce soit les mouvements de la jeunesse, les mouvements des femmes, les mouvements des hommes. Et il s'intéresse finalement à la société civile, parce que c'est la société civile qui est en première ligne au quotidien dans une situation d'occupation. Et c'est tout le talent de Kassim Sanogo que nous inviter à rencontrer ces différentes figures de la résistance. Je vous propose un premier extrait de ce film. Kassim Sanogo rencontre Ousmane Rougeau, qui est l'un de ces fixeurs dans notre jargon de journaliste, documentariste, reporter. Ce sont ces personnes qui connaissent le terrain localement et qui partagent avec nous, avec beaucoup de générosité, leur carnet d'adresses, leur connaissance de la géographie des lieux, et qui facilitent les rencontres avec les personnes que nous pouvons donc enregistrer ou filmer. Kassim Sanogo rencontre donc Ousmane Rougeau. Il est le leader du mouvement citoyen Nous Pas Bouger. Et Kassim demande à Ousmane ce que ce mouvement Nous Pas Bouger défend.
Le mouvement connu sous l'appellation de Nous Pas Bouger. L'idée, on l'a trouvée le 4e jour après l'occupation, parce que c'est le 31 quand même mars, que Gao est tombé. La première action qu'on a menée, c'est de participer à la première marche contre l'occupation. Et le début de marche a commencé ici, au rond-point des martyrs. Donc c'est ici, au rond-point des martyrs, que nous avons, pour la première fois, toute la jeunesse de Gao, les femmes et les jeunes, sont arrivés ici. L'objectif, c'est d'abord d'informer l'opinion nationale et internationale, rassurer le Mali, la République, que ces enfants-là, c'est vrai, ces populations ont été abandonnées, la situation est devenue chaotique, on pense qu'elle n'est pas saisissable, mais vos populations, malgré tout, demeurent maliennes. Donc c'était cette expression. Une autre expression, c'est de dire carrément aux occupants que nous ne sommes pas avec vous, nous n'avons pas la même vision et on ne pourra pas être. Donc nous, on était là.
Extrait du film de Kassim Sanogo, cette première rencontre avec Ousmane Rougeau qui se termine sur des images d'archives de l'époque, en général filmées avec les téléphones portables, ce qui permet aux acteurs aujourd'hui de témoigner aussi de ce qu'ils vivent au quotidien face à l'occupant, avec des sons beaucoup plus difficiles à entendre, mais avec des images qui montrent cette jeunesse sur le rond-point de l'indépendance, qui ne lâche rien, qui scande le mot de leur pays Mali et qui entonne même l'hymne national malien, en sachant qu'ils prennent évidemment des risques extrêmement importants, mais nous, pas bouger, ça veut tout dire. Ce qui est très intéressant dans le film de Kassim Sanogo, c'est que la radio, on l'a entendu, est un acteur, est un véritable personnage de ce film Gao, la résistance d'un peuple, puisque tout ce montage, toute cette narration, elle est faite parallèlement à l'histoire du peuple Sonrai, telle qu'elle est racontée à la radio Nata, de Gao, qui est une radio actrice de la résistance. Qu'est-ce que vous avez pensé justement, Dia, de cette façon qu'a Kassim Sanogo de nous raconter cette résistance à Gao, de la forme qu'il emprunte?
Justement, c'est important parce que visuellement, effectivement, il nous montre aussi ces endroits clés, quand même, comme ce témoignage qu'on vient d'entendre au rond-point des martyrs, finalement, ce mouvement « Nous pas bouger » parmi d'autres, hein, cette radio, comme vous dites, Radio Nata, où finalement s'est constituée la première réunion de protestation dès que la ville a été envahie. D'autres mouvements comme Jeunes Patriotes ou les Patrouilleurs, parce que évidemment ces mouvements ont suivi des pillages, donc il y avait des jeunes patrouilleurs qui veillaient sur les familles, etc., sur les biens. Et Jeunes Patriotes aussi, qui a sauvé par exemple de la place d'indépendance, qui a été malencontreusement rebaptisée la place de la Charia, parce que c'est là qu'étaient subis les différents châtiments. Ce sont des espaces qu'ils ont essayé de symboliquement vraiment se battre contre l'invasion. Et à chaque fois qu'il va à la rencontre d'un leader de la résistance, eh bien on a l'occasion de voir ces endroits. Il y a notamment aussi l'endroit mythique, cet endroit culte avec la pyramide.
Le mausolée.
Exactement, qui a failli être détruit, mais grâce à la résistance, des jeunes notamment, non armés absolument, qui ont pu sauver cet endroit quand même important.
Souleymane Bachir Diagne, le philosophe que vous êtes, est-il sensible à la volonté de ce jeune réalisateur malien, Kassim Sanogo, d'inscrire cette histoire de la résistance à Gao contre les groupes armés, qu'ils soient indépendantistes, le MNLA, ou qu'ils soient extrémistes, religieux, comme le Moujao, dans la grande histoire des Sonrai? Parce que tout au long de ce film, en Sonrai, justement, on entend ces récits épiques, ces récits mythiques du peuple Sonrai qui lutte déjà depuis très longtemps contre certaines formes de djihad. Qu'en pensez-vous?
Oui, ceci est magnifiquement fait justement par le film, parce que cette manière qu'il a de tisser ensemble deux histoires, une histoire de résistance au présent, en 2012, donc quand l'invasion a eu lieu, et la longue histoire et la longue tradition de résistance qui est caractéristique de l'Empire Sonrai, jusqu'au moment où d'ailleurs où l'Empire Sonrai a été, comme vous le savez, détruit par une invasion marocaine. Alors cette manière d'évoquer le passé à partir et à propos du présent est la meilleure manière probablement d'indiquer à quoi sert l'histoire et à quoi sert la mémoire. Et de rappeler qu'il y a eu cette résistance historique, héroïque, bien documentée du Sonrai, mais qu'il fallait également donner voix à cette résistance au quotidien de héros tout à fait anonymes et qui ne se considèrent même pas eux-mêmes comme des héros. C'est très émouvant de les entendre au fond, dire simplement Mali et le simple fait de prononcer le nom de leur pays devient un immense acte de résistance. Et de dire que la résistance a commencé 4 jours seulement après l'invasion. On aurait pu penser qu'il lui aurait fallu du temps entre l'invasion et le moment d'hébétude, de désarroi que ce genre d'invasion provoque, et le moment où ces jeunes se mettent ensemble et décident qu'ils ne partiront pas, ils ne bougeront pas. Et cette reprise d'une chanson, d'ailleurs, je crois, « Nous pas bouger », c'était
C'est Salif Keïta.
Salif Keïta, et c'était à propos des immigrés. Qui avaient décidé de faire leur vie là où ils étaient et de gagner honnêtement cette vie-là. Et cette reprise, cette manière qu'il a eue de célébrer l'héroïsme au quotidien et de dire qu'au fond, l'héroïsme historique ne l'emporte en rien sur cet héroïsme du quotidien est quelque chose de très très bien fait.
Et ce qui est très intéressant, et effectivement, c'est qu'au-delà de cette histoire épique, héroïque de l'Empire Sonrail, moi j'ai trouvé que le talent du réalisateur Kassim Sanogo, c'était justement de raconter la résistance à Gao à hauteur de jeunes, à hauteur d'hommes, à hauteur de femmes. Et je vous propose d'écouter une autre voix de la résistance à Gao. Il s'agit de la responsable de la formation. Elle témoigne devant la caméra de Kassim Sanogo.
J'étais la directrice du centre d'animation pédagogique de Gao, qui forme les enseignants. J'ai été une personne très influente dans le processus même de l'année 2012 où des djihadistes, des groupes armés sont rentrés. On était en congé de Pâques. C'est dans cette école qu'on s'est implanté lors des événements. Pourquoi ? Parce que cette école n'avait pas été occupée par les groupes armés.
Et quel est le rôle que vous avez joué dans cette école à ce moment ?
Bon, on a demandé à rencontrer les enseignants présents sur les lieux après les événements. On a profité pour les sensibiliser sur la manière de pouvoir reprendre l'école. Parce que depuis la fin des congés de Pâques, les enfants n'ont pas été à l'école. Parce que si on ne reprend pas l'école, ceux qui sont restés, par exemple les lycéens, c'est des grands élèves, ou ceux du CFP, etc., de l'enseignement professionnel, sont des grands élèves. Et les groupes armés sont là pour faire miroiter devant ces gens l'argent. Venez avec nous, on va vous donner 100 000 francs, on va vous donner 150 000 francs. Et même les enseignants, il y en a qui ont essayé même de se mettre dans les groupes armés parce qu'il y avait l'argent. On leur a dit, l'argent là c'est autre chose. Si vous allez avec les groupes armés, vous allez venir prendre les armes contre vos parents eux-mêmes. Beaucoup ont compris. Les enseignants ont commencé à venir et on a réparti. Et le 24 avril, tout le monde était en classe. Il y avait tellement d'élèves. Les élèves en avaient marre de rester à la maison, cloîtrés à la maison, parce que si tu sors, quelquefois tu peux même avoir une balle perdue sur ta tête. Donc le fait d'aller à l'école, ça a vraiment plu aux élèves.
Le fait d'aller à l'école, ça a vraiment plu aux élèves. Ils ont pu sortir de leur maison. Et donc, cette femme, directrice de la formation à Gao, a dû négocier avec l'occupant. Ce qui montre bien ce quotidien sous l'occupation que veut faire revivre sous nos yeux Kassim Sanogo. Ce qui montre bien aussi l'ambivalence de la situation, Diamambou.
C'est assez bien montré, c'est ce qui est très intéressant dans ce documentaire, il y a cette humilité en fait. On peut dire aussi qu'il y a dans sa démarche une tentative de clarification de ce qui se passe un peu entre le Nord et le Sud. Il vient avec la question en disant, voilà, dans le Sud, on entend que vous ici au Nord, vous dites que l'État est démissionnaire, n'intervient pas, gère mal son pays. Mais dans le Nord, dans le Sud plutôt, on dit que dans le Nord, vous avez collaboré avec les djihadistes. Et il y a certaines personnes qui le fait intervenir, qui expliquent que nous, quand on reçoit des balles, on ne sait pas de qui, notre première réaction, c'est de protéger le peuple. C'est pour ça qu'ils reviennent souvent avec le mot Mali, pour montrer que nous, c'est l'unité du pays, c'est le Mali, peu importe finalement qui nous attaque. Et donc si finalement quelqu'un attaque les habitants, nous on va se mettre à les protéger, même si c'est les gens de l'État ou peu importe. Donc, et donc ça a créé beaucoup de discussions et d'ambiguïté que finalement à la capitale, au sud, on pensait qu'ils ont collaboré avec les djihadistes. Et dans le nord, eux, ils disent que bon, il n'y a pas de gestion. Il amène cette tentative de clarification et il laisse clairement les différents intervenants, comme cette dame d'ailleurs, pouvoir s'expliquer à ce sujet-là.
Et il laisse absolument le spectateur se faire sa propre opinion, Kassim Sanogo. Alors, une petite surprise avant de se quitter, nous n'avons pas voulu caler face à l'adversité, puisque jusqu'au dernier moment, Ousmane Rougeau a attendu son visa, il n'a pas pu l'obtenir, il n'a pas pu venir ici, à Africa Jark, et les organisateurs peuvent vous dire que ce n'est malheureusement pas la première fois, donc je tiens à répéter que cette année, on me dit que quatre invités africains, artistes, artisans, intellectuels, n'ont pas pu être ici à Africa Jark parce qu'ils n'ont pas eu leur visa. Donc c'était important de vous donner cette information. Et du coup, Ousmane Rougeau, qui est descendu de Gao sur Bamako, qui a attendu pendant 2 jours son visa, qu'il n'a pas eu. Donc nous avons parlé ensemble au téléphone. Nous avons gardé une petite séquence de montage. Le meilleur, parce que la ligne n'était pas très bonne, on s'est rappelé plusieurs fois, on a fait le maximum, mais moi, je tiens absolument à ce qu'on l'entende, à ce qu'il soit avec nous, ici à Africa Jark. Donc, on va faire un petit effort, on va ouvrir bien, bien grand nos oreilles pour écouter et accueillir Ousmane Rougeau. Merci Ousmane Rougeau d'être avec nous à Kajark sur RFI pour parler et pour rendre hommage à Kassim Sanogo, le réalisateur de Gao, La résistance d'un peuple. En 2012, vous avez 34 ans. Qu'est-ce que ça change dans votre vie quotidienne, l'occupation ?
La crise de Gao a été un grand choc parce que ça a chamboulé notre histoire. Et du coup, dans tout ce qui se disait, même sur les médias, on ne se reconnaissait pas dans ce qui se disait. On ne se reconnaissait pas aussi dans la revendication des acteurs. C'était vraiment un choc.
Quel rôle a joué votre radio, la radio Nata, dans cette résistance ?
La radio Nata, comme plusieurs radios de Gao, elle a été au centre de la résistance. Et en donnant l'information, en informant les populations toutes diverses sur les crimes, sur les abus, sur la mauvaise gouvernance, sur tout ce qui... En tout cas, elle a continué comme si elle était dans une démocratie, comme si elle était dans une laïcité. Donc ça a beaucoup aidé les populations, voilà.
Rougeau, je vais vous demander votre phrase de conclusion.
La conclusion, c'est que les groupes armés, qu'ils soient extrémistes ou indépendantistes, tout le monde sache que c'est d'abord, on revendique pour les populations et que toutes ces populations arrivent à une paix, à une tranquillité, à la santé, aux promotions, à une éducation. On peut le dire, nous sommes aussi une communauté de métissage. Et voilà, monsieur le Mali, c'est aussi Mandingue que Songo, que Touareg, que Peul, que Dogon, que Bamana.
Merci beaucoup, vraiment, Ousmane Rougeau. Merci beaucoup. Métissage, ce sera le dernier mot que nous retiendrons de cette édition spéciale de la Marche du Monde à Africa Jark. Le Mali uni, ce sont les derniers mots d'Ousmane Rougeau et ce sera la conclusion de cette émission pour fêter l'engagement de nos invités et du festival pour la paix, pour la diversité dans les Afriques. Souleymane Bachir Diagne, Cherlo, Diamant Bou, Kassim Sanogo, merci. Et bien sûr, je vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux. Exprimez-vous, podcastez cette émission, c'est la vôtre.